bonjour à chacun et chacune. Effectivement, que la bénédiction de l'Éternel repose sur nos vies. Nous sommes bien variés ici. Certains viennent régulièrement, d'autres sont de passage. C'est toujours une question, on l'a abordée, c'est vrai, ces derniers temps, dans beaucoup d'assemblées. Ça va, ça vient, mais il y a des personnes fidèles et puis d'autres qui passent. Et vraiment, je reconnais que tout un temps, c'était pour moi une difficulté. C'était une difficulté. Et puis un jour, on m'a dit, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'annoncer avec fidélité le conseil de Dieu. Peut-être certains entendront une fois en passant dans cette assemblée ou dans d'autres. Et puis, des choses seront déposées. Puis, un jour, le Seigneur fera. J'étais touché ce matin, une sœur qui, par diverses circonstances, avait été amenée à s'éloigner de la maison, comme elle dit, est revenue. C'est curieux. Et je me disais, combien cette vie que le Seigneur a déposée dans nos cœurs, elle est puissante. C'est une vie de résurrection. C'est une vie de résurrection. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui a déposé cette vie dans notre cœur un jour. Ce n'est pas du tout le sujet de mon message, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et alors cette vie, par moments, peut y avoir tout un tas de circonstances, mais cette vie, elle est là. Elle est là. Et elle ne nous laisse plus tranquilles. Elle ne nous laisse plus tranquilles. Alléluia. Seigneur, vraiment, merci pour cela. Merci pour cela. Ce matin, je voudrais situer mon message par rapport à plusieurs messages de ces derniers dimanches qui, je trouve, ont insisté sur la part que nous avions à mettre en œuvre, soyons clairs, non pas pour mériter le salut. Le texte que Daniel a choisi montre tout à l'heure que, en matière de mérite pour le salut, l'affaire est réglée. C'est pas du tout cela, c'est par grâce au moyen de la foi qu'on est sauvé. Mais pour que notre vie, cette vie nouvelle que nous avons reçue, eh bien, manifeste vraiment ce que nous sommes. Il nous a été rappelé un certain dimanche de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, Philippiens 2, verset 12. Et puis, un autre message nous a invité à manifester une vraie séparation, conséquence de la nouvelle naissance, soulignant notre responsabilité maintenant que notre conscience est éclairée. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Tant que nous étions morts dans les péchés, nous étions morts. Nous étions dans l'ignorance. Bien que Paul, dans sa lettre aux Romains, nous dise que nous étions entièrement responsables, entièrement coupables, inexcusables. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste quand on le considère dans ses ouvrages et qui nous a mis une conscience, qui même si elle est tordue, tant qu'elle n'était pas régénérée, nous permet quand même de savoir qu'il y a des choses que l'on fait et qui ne collent pas. Donc, en tout cas, maintenant que nous sommes nés de nouveau, pour ceux qui sont nés de nouveau, nous avons une responsabilité parce que notre conscience a été éclairée. Le salut ne nous a pas donné une bonne conscience au sens du monde. Oh, je me suis donné une bonne conscience. Elle a rendu notre conscience bonne, juste, éclairée. Elle a remis l'aiguille de la boussole dans la bonne direction. Le nord indique bien le nord. Donc si on va à l'ouest, on va à l'ouest. D'accord ? Et puis, un autre aspect a été souligné à travers le sermon sur la montagne. Il est écrit, mais moi je vous dis. Soulignant que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, c'est-à-dire non pas la respecter au millimètre en espérant être juste devant Dieu, mais étant justifié par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, nous désirons alors plaire à Dieu en se donnant pleinement, recevant ce commandement, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc nous avons notre part à faire. Nous avons une part à faire. Et ça, je crois que c'est des aspects peut-être sur lesquels qu'on souligne régulièrement. Il y a une tension dans la vie chrétienne. Il y a, c'est tout accompli. Mais pour l'instant, c'est quand même en espérance que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés en espérance, en totalité. Notre esprit régénéré, notre âme en cours de transformation connaît une vie nouvelle. Il y a une attestation dans nos cœurs. et pourtant il est dit travailler à votre salut. Il a été rappelé à cette occasion qu'on pouvait perdre son salut. Il y a donc cette tension dans la vie chrétienne, dans Colossiens également. Vous êtes mort avec Christ, Romains, vous, souvenez-vous que vous avez été fait une fée plante, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, qui, baptisés dans un seul esprit, c'est en sa mort que vous avez été baptisés, et pourtant, Colossiens nous dit, alors faites mourir par cet esprit même par lequel vous êtes mort à votre ancienne vie, maintenant, par cet esprit, faites mourir ce qui reste dans votre corps d'impureté, etc., etc. Ce matin, je vous invite à méditer à partir de la seconde lettre de Pierre. Nous nous concentrerons d'abord sur les 11 premiers versets, et puis nous tenterons de saisir un peu les motivations de Pierre dans cette lettre et en quoi cela nous concerne. Nous allons lire donc dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 1 à 11. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, pour joindre à la vertu la science, pour ajouter à la science la tempérance, pour ajouter à la tempérance la patience, pour ajouter à la patience la piété, pour ajouter à la piété l'amour fraternel, et pour ajouter à l'amour fraternel l'amour, la charité ou l'agapéo. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, est aveuglé, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Affermissez votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, voilà la promesse, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Le premier thème qui nous est souligné ici, c'est la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. D'abord, je voudrais souligner que dès l'introduction de cette lettre, le décor est posé, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Multiplié. Dans beaucoup d'introductions des lettres de Paul, entre autres, il est dit que la grâce et la paix soient avec vous. Il n'y a même pas de verbe en grec qui accompagne cette phrase. Dans les deux lettres de Pierre et celle de Jude, il y a le terme que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il y a une idée d'abondance, d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on sait aujourd'hui. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment ? Par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez dire, on le connaît, il nous s'est révélé à nous, etc. Pierre, c'est une lettre d'urgence, c'est une lettre testament. Et Pierre nous dit, allez plus loin. Allez plus loin dans la connaissance de Dieu. Il nous dira pourquoi, j'y reviendrai peut-être parfois un peu dans le désordre, ça apparaîtra un peu tout au long de mon message. Parce que il est des temps où viennent les moqueurs, où remettant en cause le retour du Seigneur Jésus-Christ, remettant en cause sa divinité, remettant en cause tout un tas de choses. Et si vous voulez garder au milieu de cela, c'est le sens de cette lettre, la paix, vous avez besoin de connaître et de connaître davantage, de connaître avec abondance, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous avons besoin que cette grâce et cette paix soient multipliées dans les temps où nous sommes. Il faut donc y voir effectivement une urgence, une insistance. Comme si nous ne pouvions pas nous permettre de connaître qu'un peu, ou que cela soit une connaissance parmi d'autres, il semble qu'il y ait besoin que nous soyons remplis de cette connaissance avec abondance. Quand on considère la suite du texte, nous sommes exhortés pour devenir participants de la nature divine, et c'est le titre de mon message, à fuir la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Le terme, dans une traduction interlinéaire grec-français, est encore plus fort, à fuir la pourriture qui existe dans ce monde par la convoitise. Une autre traduction, le français courant, nous dit qu'en recevant cette vie et la piété, nous pourrons échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans ce monde et participer à la nature divine. Il y a là une exclusivité, il y a là vraiment deux choses séparées. On ne pourra pas mener les deux combats, connaître davantage notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ et continuer de fricoter avec les choses de ce monde, nous serons entraînés. Pierre nous dit que ce combat, ce partage n'est pas possible. Je voudrais souligner, nous sommes là dans la pensée de l'Apocalypse, au verset 22, verset 10, il me dit « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Je voudrais encore rappeler l'introduction surprenante au culte il y a 2 semaines. C'est un texte quand même qui peut employer dans les introductions de culte sur l'église de Laodicée. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Frères et sœurs, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas la force de tenir 2 voies. Impossible. Ça amène des déchirements intérieurs, des tourments intérieurs, une profondeur. On se demande, pourquoi des fois certains chrétiens... Tiens, on me dit, mais il y a des chrétiens, ils sont plus tourmentés que des non-chrétiens. Pas surprenant ! Pas surprenant ! Celui qui n'est pas converti est mort dans ses péchés. Il n'a aucune notion de sa perdition éternelle. Mais celui qui sait, c'est dit dans la parole, s'il se détourne et s'il fricote, sa condition est pire qu'avant. Mieux aurait-il... C'est terrible ce qui est dit, je lisais ça à la parole. Mieux aurait fallu qu'il ne connaisse point. Incroyable. Donc nous n'avons pas les moyens. Il y a nécessité d'un positionnement clair et c'est une exhortation forte que Pierre nous adresse là à la fin de sa vie. Le texte que nous avons choisi commence par « Nous avons tout, frères et sœurs, nous avons tout, comme sa divine puissance nous a donné tout ». Ce qui contribue à la vie. Il n'est clairement pas parlé là de la vie charnelle, mais de la vie de l'esprit, de la nouvelle naissance, la Zoé. Hein, c'est vraiment la Zoé. Il nous a donné la vie. Nous avons reçu la vie, celle qui vient d'en haut, qui ne peut venir ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Il nous a donné tout ce qui contribue à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc la vie, c'est Zoé, c'est bien la vie de l'esprit. Il s'agit de cette résurrection suite à la mort intervenue par désobéissance d'un seul homme et qui nous a coupé de notre Créateur. La relation est rétablie, nous pouvons de nouveau être en communion avec notre Dieu, notre Père. La piété, un terme, au sens commun, comme l'a emprunté, ça fait un peu bigot, comme ça. Or la piété, c'est quelque chose qui nous parle de respect, de sainte crainte de la créature envers son Créateur. Cette piété, elle est définie dans la parole, en quelque sorte, dans l'épître à Timothée, en 1 Timothée 3,16, et sans contredit. Le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. La traduction parole vivante nous dit « Il s'est révélé dans un corps humain et déclaré juste par le Saint-Esprit », je l'ai rappelé tout à l'heure dans la prière, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voilà le témoignage de Jean-Baptiste. « Il a été vu par les anges, il fut proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier, il fut élevé dans la gloire. » La piété, c'est donc l'amour, la reconnaissance que l'on a pour ce Dieu qui a envoyé dans la chair Jésus-Christ. On pourrait dire la piété dans le fond. C'est Jésus-Christ, comme la parole, c'est Christ. Piété, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une espèce de dévotion religieuse. C'est cette réalité qui a été plantée dans nos cœurs et qui fait jaillir de nos cœurs une reconnaissance éternelle. La piété est donc la dévotion, l'amour manifesté par les hommes qui ont reçu la vérité concernant le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ et qui se nourrit du socle de la foi chrétienne, Jésus-Christ, fils de l'homme, fils de Dieu, mort à notre place, mais élevé dans la gloire et qui reviendra. Aucun article de cette foi ne doit être négligé, ne doit être tenu pour rien. Alors cette piété-là, avec la reconnaissance et le contentement qu'elle suscite dans nos cœurs, est effectivement une grande source de joie et nous met en état, en capacité, de faire tous nos efforts pour développer les vertus chrétiennes qui sont annoncées ensuite. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Je voudrais insister là-dessus parce que si on lit les 7 recommandations qui nous sont faites, sans que nous soyons remplis de cette joie que donne la compréhension de qui est notre Dieu, de qui est Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'arrête tout de suite, moi. On va parcourir rapidement ces 7 points. Mais on chute à peu près à tous. Donc si on n'est pas d'abord rempli de cette intimité, on n'y arrivera pas. À cause de cela même, à cause de ce que je viens d'exposer, qui nous est donné dans la parole, à cause de cela, et uniquement à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre, pour ajouter à votre foi. La foi, c'est le fondement. Nous avons cru, nous l'avons chanté. Nous avons cru et nous avons connu. Nous avons connu parce que nous avons cru. Important. C'est la foi qui conduit à la connaissance. Dans le monde, on ne croit que ce qu'on voit et que ce qu'on a démontré. Descartes ne tient pour sûr que ce que tu as démontrer toi-même, décomposer en autant de parcelles qu'il sera nécessaire pour le mieux comprendre. Avec Dieu, j'ai confiance dans la parole que les témoins m'ont rapportée. Ce n'est pas moi qui ai vu, mais les témoins oculaires nous ont rapporté, et nous ont transmis depuis des siècles. Et nous avons cru, alors puisque nous avons cru, nous avons connu. Et pour accroître notre connaissance, il nous faudra encore, frères et sœurs, croire. Croire qui et quoi ? Croire Jésus-Christ, l'auteur et celui qui est la parole de Dieu. Donc croire sa parole. Pour la croire, la foi vient de ce qu'on entend. Si ce qu'on entend vient de la parole de Christ, il faudra bien la lire, la manger, la méditer, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Pierre nous invite donc à augmenter notre connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, afin que nous connaissions, nous saisissions de mieux en mieux ce qu'est la grâce et la paix qui en découlent. Si nous connaissons qui est notre Dieu et donc qui nous sommes maintenant en Jésus-Christ, c'est-à-dire des fils et des héritiers, et que cela est bien ancré, nous sommes réellement participants de la nature divine. Je ne voudrais pas multiplier les textes, mais Éphésiens démarre là-dessus, ces merveilleux textes d'Éphésiens. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes pour célébrer la gloire. Nous sommes destinés à célébrer la gloire. C'est repris sous cette fois dans le premier chapitre d'Éphésiens. Notre destinée, notre vocation, ce que nous sommes destinés à célébrer la gloire pour l'éternité et à le servir pour l'éternité. Dans l'Apocalypse, ses serviteurs le serviront. Nous le verrons face à face, nous le servirons. Voilà notre destinée. Il faut que nous connaissions cette destinée. Alors, ça nous motivera pour tous ces efforts, pour avancer. Et ensuite, effectivement, nous avons cette communion avec Dieu, c'est koinonia, c'est vraiment quelque chose d'intime. Et ça, ce que nous dit le texte, et j'insiste, il nous dit que ça s'est donné dès la nouvelle naissance. Il nous a donné tout, tout. Et nous avons tout en lui, et en lui habite toute, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Donc nous avons tout à la naissance, comme un enfant. Il a l'ensemble de son génome, il a tout son potentiel qui aura à se développer. Nous avons tout reçu, frères et sœurs. Nous avons tout reçu lorsque, par le Saint-Esprit, nous avons été réveillés, nous avons reçu la vie et nous avons tous été baptisés dans un même esprit. La question est comment maintenir cette communion jusqu'au moment où nous quitterons cette terre ou jusqu'au moment où le Seigneur reviendra. C'est ça la vraie question de nous qui sommes ici, qui avons reçu la vie de Dieu. Il nous est donné dans ce texte une chose à fuir, et je commencerai par là. C'est très clair, il y a une chose. Ce qui est à fuir, pour déjà régler le problème, c'est la corruption, la pourriture qui existe dans le monde par la convoitise. Je crois que, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est tellement visible aujourd'hui. Je pourrais réinsister et puis prendre des précautions, frères et sœurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais enfin, les propos sont quand même clairs, il y a un temps d'urgence. Si nous tentons, tant que soit peu, à fricoter, à prendre des moyens de ce monde, dans le sens à se mettre sous le joug de ce monde. Usons du monde comme n'en usons pas, mais nous sommes porteurs, nous sommes ambassadeurs de Christ, du Dieu Tout-Puissant. Nous avions hier, pendant l'enseignement, des échanges, c'est ça qui est intéressant, dans l'enseignement, il y a des échanges, tout un tas de questions, c'était assez riche et nourri hier. Et alors, il a dit, mais sujet concret. J'étais chez moi, et puis j'avais invité des voisins à déjeuner, gens qui étaient musulmans, pas de problème. On était sur ces textes de 1 Corinthiens 8 sur les viandes sacrifiées aux idoles, etc. Et puis, le frère, la sœur disent, dans le fond, j'étais embêté, je voulais prier, alors. J'ai dit, est-ce que ça ne vous dérange pas que je prie? Et vous savez ce qu'a répondu l'autre? Mais il n'y a pas de problème, moi je pourrais prier aussi. Et on a réfléchi là-dessus. Frère, nous avons une autorité. Et nous ne sommes pas le représentant d'un Dieu parmi les dieux, quoiqu'il n'y en ait point d'autre que le Dieu unique. Mais certains croient qu'il y en a d'autres. Nous sommes le représentant du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas prétentieux, ce n'est pas orgueilleux. Nous portons une responsabilité importante. Et nous avons là à prendre autorité, avec douceur, avec simplicité. On n'a pas, vous voyez, c'est pour illustrer cette idée, on n'a pas à se mettre, est-ce que je peux prier mon Dieu? Mais non, je le fais, pas pour provoquer. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, il faut faire de telle ou telle manière. Mais vous voyez, prenons conscience qu'on est porteur de quelque chose de saint, de pur. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Mais le Seigneur nous a purifiés. Et du coup, nous devenons ces vases dépositaires de ce témoignage. Donc, à fuir la corruption, la pourriture qui existe dans le monde par la convoitise. Ça mérite quand même d'être un petit peu développé. Ne croyons pas qu'on pourra accroître notre connaissance du Dieu vivant et vrai. Notre connaissance de Jésus-Christ, en laissant entrer dans nos maisons, à travers des canaux extrêmement puissants, je suis désolé, des pourritures, tout ce qui rentre comme image, comme son, des fois comme musique, comme machin, je suis désolé. Croyez pas qu'on sort indemne de ces choses. Croyez pas qu'on sort indemne de des paroles qu'on accepte d'écouter, sans y répondre. Il est dit dans la parole, ne redresse pas l'insensé, ça ne sert à rien, mais 5 versets après, il est dit, redresse l'insensé, il a besoin d'être pris. Donc, demandons au Seigneur le discernement sur ces choses, mais ne jouons pas avec ça. Il est clair D'abord, que le temps qu'on passe à ces choses, on ne passe pas à autre chose, on ne passe pas à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes, chacun dans son travail, etc., on peut être exposé à des choses. On n'est pas obligé d'y demeurer. Je m'arrête là pour ce qui est à fuir. Il y avait ce point, vous connaissez, on l'évoque assez souvent. Ensuite, à mettre en œuvre cette proposition, enfin, quand je dis proposition, c'est quand même, faites tous vos efforts pour joindre, littéralement pour ajouter. Hein? Donc, faites tous vos efforts. Bon, ça nous annonce la couleur, ça ne veut pas dire que c'est forcément très facile. Je vais les balayer, certains, assez rapidement. La vertu, c'est le courage, la volonté, la bonne conduite. Alors ça, c'est quand même un point important. Par la grâce de Dieu, tout va bien, j'attends le Seigneur, machin. Nous avons des choses à faire, des positions à prendre sur des choses qui demeurent dans nos vies. J'ai des décisions à prendre et Dieu va m'aider. Fuyez l'impudicité. Ce que celui qui est dérobé ne veut plus, mais au contraire qu'il travaille pour subvenir à ses besoins, avoir de quoi donner. Nous avons des décisions à prendre. Et elles demandent du courage. Peut-être des relations à éloigner, à trancher. Des relations qui nous ont amenés dans des situations qui ne sont pas possibles. Si on est jeune chrétien, peut-être qu'un jour, le Seigneur vous permettra de revenir vers ces personnes pour leur témoigner. Mais prenez garde de ne pas être emporté alors même que vous venez de sortir du péché et de la misère, d'y replonger. La science, la vraie connaissance de Dieu. Notre conscience, notre âme a été tellement souillée. Daniel nous a pris ces textes, ils sont très durs ces textes. Un sépulcre blanchi, enfin le venin d'aspic sont sous leurs lèvres, etc. C'est pas pour quelques cas extrêmes, hein. C'est pas pour quelques cas extrêmes, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne et que le Seigneur nous montre les choses, globalement, on est. Si nous avons une vie chrétienne normale, de mois en mois et d'année en année, le Seigneur, si on marche vraiment avec lui, nous montre qu'il n'y a aucun espoir en nous-mêmes. Et je dirais même que plus on avance, plus il nous montre des choses qu'on n'avait pas soupçonnées. Notre âme a été tellement souillée que nous ne pouvons nous confier à notre propre sagesse pour déterminer ce qui est bon ou non pour nous. Voilà encore illustrer le nombre de domaines où le monde a imposé des critères en opposition totale avec la volonté de Dieu. Il y a une accélération, je ne peux pas m'étendre là-dessus ce matin, mais il y a une accélération globalement depuis l'après-guerre, mais mai 68. C'est-à-dire que on le voit dans le droit qui accompagnait tant bien que mal au fil des siècles l'évolution de la société, il accompagnait, constatait qu'il y avait des désordres. Il faut savoir que, par exemple, globalement en Europe, le droit, le code civil de Napoléon, est largement inspiré des valeurs judéo-chrétiennes. Lisez-le, c'est intéressant, si vous lisez des textes un peu, des versions un peu anciennes, vous trouverez vraiment les valeurs judéo-chrétiennes. Je ne vous ai pas dit que Jésus-Christ était prêché dans le code de Napoléon, mais vous trouvez des valeurs judéo-chrétiennes. Et ça a été le cas jusqu'à à peu près une cinquantaine d'années, où le péché augmentant, ça c'est la Bible qui le dit, les lois se sont adaptées pour essayer de contenir l'affaire. La loi est utile quand même, hein. La loi est utile dans notre pays. Parce que s'il n'y avait pas de loi, ce serait pire que c'est. C'est déjà pas mal. Donc c'est Dieu qui a permis qu'il y ait des lois pour éviter la catastrophe. Elle vient. Mais depuis une cinquantaine d'années, ce n'est plus simplement un accompagnement. Il y a, à travers une volonté claire, exprimée, intentionnelle, comme on dit aujourd'hui, de pensée, de philosophes, d'élites artistiques, philosophiques, politiques, regroupées dans des lieux occultes, une volonté antéchrist d'ouvrir par des lois les possibilités, que ce soit en matière de sexualité, etc., etc., etc. Et ça, c'est un changement. Ce n'est pas mon opinion. Des juristes savent ça. Nous sommes dans ces temps-là. Donc, nous ne trouverons pas, en dehors de la parole de Dieu, les critères pour nous conduire, frères et sœurs. Ne nous croyons pas plus forts que les voisins. Nous avons besoin, notre âme, elle est encore tordue. Et dans tous les domaines, sexualité, le loisir, la revendication de nos droits, l'usage de notre liberté, nous avons besoin de connaître ce que Dieu dit. Je prends un exemple. La question de la nudité. L'Ancien Testament nous dit des choses là-dessus qui ne sont pas caduques. Que l'enfant ne voit pas la nudité de son père et de sa mère, etc. Il y a derrière ça des choses extrêmement importantes. Moi, j'ai vécu pendant des années dans l'ignorance de ces choses. Mais j'ai vu, il y a des conséquences. Il y a des conséquences dans la vie des enfants, des tourments, des choses qui les tourmentent, qu'ils ne devraient pas. La chambre nuptiale doit être réservée. Bon, pourquoi je vous donne ça ? Mais c'est des exemples concrets, parce que je sais que ces choses-là, on peut être dans l'ignorance. Dieu ne nous le reproche pas, mais il nous dit « Va, je t'ai donné tout ce qui est bon. Alors va et lisez, prenez et lisez. » Notre propre opinion sur ces choses, frères et sœurs, elle est plus ou moins faussée et plutôt plus que moins. Nous avons besoin. Pour ces choses extrêmement pratiques, j'essaye de donner des choses pratiques de la vie concernant la vie de parents, d'enfants. Sur l'éducation des enfants. Mais lisons Proverbes. Lisons Proverbes. Comment le jeune homme gardera-t-il pure sa voix en marchant selon ta parole? C'est caduque? C'est pas caduque. C'est ça la science, la connaissance, la vraie connaissance. Pas celle qui enfle, mais celle qui nous fait du bien. Nécessité de retrouver dans la parole de Dieu ce que Dieu dit. Nécessité d'être également libéré de nos arrière-plans religieux, philosophiques, culturels. J'entends dire, c'est la culture comme ça, on fait avec la culture comme ça. Il y a certains points, oui, bien sûr, on peut s'exprimer, on ne peut peut-être pas tous de la même façon, etc. C'est d'accord, ça va. Mais pour les points que Dieu traite, est-ce que nous acceptons que des choses de notre culture, de notre pensée philosophique, que nous avions acquis de nos pères, soient revues et corrigées? Alors, bien sûr, ça peut être l'exemple concernant l'observation des jours, des mois, des années, toutes les traditions qui pèsent. Ce que nous avons le droit de manger ou non, je ne m'étends pas là-dessus, ça mériterait un thème en soi. Et donc, nous avons besoin d'aller trouver dans la parole de Dieu ce que Dieu dit concernant ces choses, y compris la vie pratique. La tempérance. Alors je dis tout de suite, la tempérance, ce n'est pas la tolérance à tout et n'importe quoi, parce que c'est très à mode. Mais la tempérance, c'est plutôt la maîtrise de soi. Ni lâcheté, ni autoritarisme. C'est peut-être la capacité à ne pas réagir tout de suite aux choses. Pas facile. Beaucoup de travail, que le Seigneur me travaille encore là-dessus. Proverbe 15 nous dit des choses là-dessus. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Le langage des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Encore 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, c'est la même pensée. Ayons au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, je vous rappelle la différence entre la calomnie et la médisance, l'une et l'autre ne sont pas terribles. Simplement, la médisance s'appuie sur un fond qui est vrai, la calomnie invente tout. Encore plus dur à encaisser. Quand quelqu'un médit de nous, mais qu'il y a un bout de fond, c'est pas très agréable. Mais quand c'est la calomnie, comment on réagit à la calomnie? Que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres, ce n'est pas simplement ce qu'on fait, c'est notre conduite aussi. et glorifie Dieu au jour où il les visitera. La patience, il y a un ordre dans ses vertus, dans ses qualités que l'apôtre Pierre nous invite à acquérir. La patience, c'est aussi la ténacité, la constance. La patience, on peut lire, tiens, on va lire Jacques un petit peu. On connaît bien ce passage, mais quand on s'y arrête, Jacques, chapitre 1er, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ah bon, Seigneur, donc c'est toi qui permets tout ça? Il pourrait s'en passer si notre patience était acquise, mais il semble qu'elle ne le soit pas. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien, sans broncher, disent certaines traductions. Vous savez, il y a broncher, murmure. On étudiait aussi ça hier, les murmures. Les murmures, ça. Murmure, on n'a pas le courage d'envoyer balader clairement. Alors, ça commence par fermenter là-dedans. Murmure, on ne va pas. Enfin, la plupart du temps, d'ailleurs, on ne l'adresse pas à celui contre qui on murmure. On murmure entre plusieurs. Dès qu'on le voit apparaître, la parole nous éclaire là-dessus aussi. Dès qu'on le voit apparaître, ne mentons pas à nous-mêmes. On sait que ce n'est pas une bonne voie, de toute façon. Je dis souvent, on ne sait pas toujours ce qu'il convient de faire. Mais il y a quand même un certain nombre de signes. Quand on les voit apparaître, on sait que ce n'est pas bon. Donc il y a une décision qu'on peut prendre, je stoppe là. Parce qu'on se détruit quand même. Et puis on détruit les autres. Le murmure, c'est une révolte qui n'est pas encore passée, n'est pas encore sortie, quoi. Elle est en train de gronder. Donc la patience, c'est vraiment un sujet. Et vous voyez, on a besoin de lire la parole en le lisant encore ce matin. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Je reconnais que, des fois, en traversant des épreuves, ce n'est pas la première pensée qui me vient, moi. Je ne sais pas vous, moi, ce n'est pas la première pensée qui me voit de dire « Alléluia, merci Seigneur, tu es en train de me faire une formation intense. » J'y viens un moment. Mais pas forcément les premiers jours. Il me semble que j'y viens un petit peu plus rapidement à penser à ça qu'il y a 15 ans, mais ce n'est pas encore immédiat, quoi. Il n'y a pas un jaillissement, si vous voulez, un espèce de rayonnement sur mon visage. Je ne parle pas du sourire à 90 degrés, vous savez. Non, mais un espèce de rayonnement qui vient vraiment de l'intérieur, qui dit « Ah, voilà, cet homme-là, il est éprouvé, et ça se voit, il y a une joie qui émane de lui, là. Ce n'est pas forcé, on voit que c'est « Alléluia ». Bon, ben écoutez, vous voyez, c'est pour ça que la parole, c'est important, parce qu'elle nous dit comment Dieu fait les choses, pourquoi il les fait, et ce que ça doit produire. Donc, ça nous permet de calibrer, quoi. J'en suis là. Ah, Seigneur, merci. Merci, oui, tu m'envoies. Bon, ben montre-moi quand même. Alors, attendez, il nous donne quelque chose tout de suite après. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, alors là, il n'y a pas de conjonction de coordination, si vous n'arrivez pas à la patience, c'est parce que vous manquez de sagesse. Toutefois, le texte, quand même, le laisse largement entendre. Hein, je ne crois pas abuser de la parole en disant cela. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, bah, ça vaut le coup de lire ça ce matin, je vous laisse ça, ça peut servir. Je vois que la patience, elle est là. Seigneur, viens me donner la sagesse, tu la donnes à tous, mais qui la demande avec foi. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Donne-moi ta sagesse. Je vous invite à relire Proverbe. La sagesse, elle crie dans les rues. Elle dit, c'est Jésus-Christ, la sagesse. Un passage que Paul adresse à un serviteur dans l'assemblée repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur, J'avais envie de le mettre de côté ce matin, mais j'ai dit, ben Robert, dis-le quand même. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ce que ne dit pas le texte, mais que j'apprends jour après jour, c'est qu'on ne peut pas redresser l'autre. Il faut patienter. Il y a des fois, il faut parler. Mais pas très souvent, finalement. Seigneur, aide-moi, aide-nous. La piété. Tiens, la piété, mais elle nous a été donnée. Pourquoi donc la rechercher encore ? Elle est de nouveau précisée ici, c'est pas un hasard, je pense. Si nous nous sommes livrés au programme d'entraînement que nous venons de passer, décision, résolution, accroître la connaissance de ce que Dieu veut dans ma vie, exercice de la tempérance, exercice de la patience, de la ténacité, de la constance. Si j'ai démarré ce programme d'entraînement pour le marathon, frères et sœurs, je pense que nous avons déjà connu quelques échecs et que pour un certain nombre, nous sommes découragés. Seigneur, je m'en sors pas. Avec ces exercices de la tempérance et de la patience, il a dû nous arriver, oui, du chuter, d'échouer. Peut-être dites-vous, je n'y arriverai pas. Peut-être même vous êtes-vous dit, ouais, bon, allez, tout ça, c'est des trucs religieux. Le Seigneur m'a fait comme ça, je continue, je taille la route. Si c'est le cas, et inévitablement cela nous arrive aux uns aux autres, la véritable piété nous invite à contempler de nouveau celui qui a été manifesté en chair, vu des anges, justifié par l'Esprit, élevé dans la gloire, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est temps que nous relevions la tête et de voir sur le serpent qui a été élevé sur le bois dans le désert, de voir mon péché, de voir ce qui n'est pas réglé chez moi, et de voir en même temps celui qui l'a réglé, le serpent brûlant, mais la solution au serpent brûlant, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est temps, à ce moment-là, dans mon entraînement, de revenir à la croix. Ne mettons pas en oubli, frères et sœurs, la purification des anciens péchés. Ne tournons pas pour rien la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, titre 2, verset 11, source de salut pour tous les hommes a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Et voilà ce qui va nous remettre en route, frères et sœurs, et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Frères et sœurs, quand nous sommes découragés dans cet exercice nécessaire pour poursuivre la course jusqu'au bout, retournons à la croix et reprenons ces paroles et relevons les mains vers l'espérance. L'espérance. Nous le verrons face à face, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Seigneur, c'est cette course-là, je veux aller jusqu'au bout. Viens à mon secours. Oui, je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi, et je le rappelle. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Son salut, je rappelle son salut. Je rappelle, Seigneur, qui j'ai été où tu m'as sorti de la fosse. Et cela me redonne pour l'étape suivante. Et frères et sœurs, quand nous avons parcouru ces premières étapes du programme d'entraînement, c'est destiné à quoi? C'est destiné à l'amitié fraternelle, à la Philadelphia. Le corps de Christ rassemble des hommes et des femmes tellement différents. En abordant un tel sujet ce matin, je me disais, mais à quoi tu vas regarder, Robert? Alors j'ai commencé, et je me suis dit, lorsque je nous vois ici, je sais une chose. C'est que sans la révélation de Jésus-Christ dans le cœur de beaucoup d'entre nous, ce rassemblement ici ce matin. Les sociologues diraient c'est impossible. Nation, situation sociale, matérielle, familiale, culturelle. Je ne sais même pas si peut-être la Coupe du monde de foot. Mais alors, là, c'est le rassemblement autour des idoles. Mais rassembler des gens aussi différents que nous sommes ici, se rassembler pour écouter la parole d'un livre vieux de 2000 ans, de 3000 ans, frères et sœurs, ça, il faut qu'il y ait eu l'œuvre de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Je réalise combien j'ai besoin de repasser les étapes précédentes pour fortifier ces liens. Nous sommes, c'est vrai aussi, si loin du compte. Nous prétendons revivre le temps des actes. Nous soupirons pour voir des prodiges et des miracles. Parfois, d'ailleurs, est-ce qu'on ne voudrait pas disposer de la puissance manifestée, mais où en sommes-nous ? Je vous invite à lire dans Actes 2. Actes 2. À partir du verset 42 à 46. Connaissons bien ce verset 42. Des fois, après les suivants, c'est pas pareil. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les mérites de chacun. Non, selon les besoins de chacun, pardon. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Où en sommes-nous par rapport à notre indépendance ? Nous pouvons parfois être émus par ce qui se passe au loin et avoir des désirs de servir au loin, mais que faisons-nous avec ceux et celles que le Seigneur place à nos côtés ? Supportons-nous parfois de vivre cette impuissance et d'être confrontés à nos limites ? Parce que c'est vrai, c'est là le vrai sujet. Bien souvent, nous fuyons et ne supportons pas cela, alors que précisément le Seigneur nous place devant ces impossibilités pour qu'ensemble, nous venions à lui sur ces sujets. L'amitié fraternelle, la Philadelphia, ce n'est pas simplement une émotion passagère, ce n'est pas simplement de mettre une tape sur l'épaule, ça va mon frère, sois encouragé par la grâce de Dieu et je passe mon chemin. Nous avons, au milieu de notre communauté, des situations, des sujets qui demandent plus qu'une petite tape sur l'épaule, qui vont demander de l'accompagnement, de la fidélité dans le temps. Et nous pourrons, et c'est le dernier point qui est évoqué dans cette liste, et pourquoi je pense que cette liste elle a un ordre, ajouter à l'amitié fraternelle l'amour. Pas n'importe lequel, l'agapéo. Vous savez que l'agapéo, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour sans retour. Il n'y a pas de retour sur investissement ici-bas. Encore qu'il y a des promesses pour celui qui aime. C'est ici que le Seigneur veut nous conduire. Cet amour-là, nous ne pouvons le vivre si nous nous le recevons du Seigneur. Il faut que ce soit clair, nous ne l'avons pas en nous-mêmes, mais je sais, parce que c'est comme ça que nous avons cru, c'est comme ça que nous avons su que ce que nous vivions était la vérité, au moment où le Seigneur est venu dans nos vies, il a déversé son amour dans nos cœurs. Notre problème, et c'est tout le sens de ce message, et tout sens de ces exercices, c'est comment ce que nous avons reçu, et nous avons reçu tout à la nouvelle naissance, comment maintenons-nous ce courant ? Je viens penser à quelque chose que j'ai lu dans un livre de Ralph Challis. La différence entre le lac de Galilée et la mer morte. Les deux reçoivent de la fonte des neiges de l'Hermon. Le lac de Galilée se remplit de cette eau qui vient directement de la montagne. Elle ressort. Et elle arrose les rivages du Jourdain. Et il y a des plantations, etc. Frères et sœurs, le Saint-Esprit que nous avons reçu lorsque nous sommes nés de nouveau, Seigneur veut nous remplir, veut maintenir le niveau, pas d'une bouteille. Des fois, on dit c'est une bouteille. Nous ne sommes pas une bouteille. Oui, vase, on reçoit, mais il faut que ça déborde. Source jaillissante. Ça veut dire qu'il faut que ça arrive en permanence. Ce n'est pas simplement une expérience de temps en temps. Nous avons besoin de recevoir en permanence cette source pour qu'elle se déverse et que ça reste dans la pureté. La mer morte, elle reçoit. Mais elle ne reçoit pas directement de l'Hermon. Elle reçoit les bénédictions des autres qui ont traversé, les eaux qui ont déjà traversé. Mais elle ne rend pas parce qu'elle tombe dans un puits si profond que ça s'évapore, c'est brûlant. C'est pas très agréable, c'est amer. Je ne suis pas allé, moi, sur la mer morte, je suis allé dans d'autres mers extrêmement salées comme ça. C'est pas très agréable. Frères et sœurs, cette lettre de Pierre est tout entière un avertissement à une séparation radicale compte tenu des temps. Car que se passe-t-il ? Pierre nous dit, viennent les moqueurs qui disent où est la promesse de son avènement. Ce n'est pas innocent ce qui se passe là. Et nous sommes dans ces temps. Et frères et sœurs, c'est quelque chose qui menace le monde. Je ne dis pas l'Église de Jésus-Christ, parce que le Seigneur veille sur son Église. Mais je dirais le monde religieux, y compris évangélique, y compris protestant évangélique. C'est qu'il n'y a plus, et il y a de moins en moins, on ne souligne plus, qu'il reviendra. Et qu'alors, il règnera sur les nations. Ce n'est pas maintenant. Parce qu'aujourd'hui, le régime, c'est les nations, c'est le psaume 2 plutôt. Pourquoi les nations se révoltent-elles contre l'Éternel et contre son oint ? Voici, il se rit de ce qui se passe. Et on ne veut plus croire. Et cette incrédulité dans la confession de foi de ce que le Seigneur reviendra régner conduit bien des chrétiens à penser qu'ils sont chargés d'amener le règne de Dieu maintenant. Frères et sœurs, c'est grave. Ces choses pénètrent nos vies et nous devons veiller. Nous devons veiller. Nous ne sommes pas amenés, nous ne sommes pas en charge de faire lever les nations. Nous sommes en charge d'être témoins, fidèles, jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. C'est pas pareil. C'est lui qui règnera, c'est lui qui amènera le royaume et qui viendra régner avec nous si nous sommes préparés. C'est ça la lettre de Pierre. Elle est très actuelle. Derrière cette moquerie, je lis le texte qui peut ébranler les croyants. La tentation est grande de vouloir installer le royaume de Dieu sans lui. N'oublions pas que nous sommes de la même nature que nos pères au désert. Rappelez-vous Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons !» Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir des pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et ce matin, ce verset m'est venu, mais je me suis dit, mais Seigneur, c'est la même chose que ce que nous dit Pierre. Moïse, il était sur la montagne, il était avec Dieu. Et on s'est impatienté. Le peuple s'est impatienté. Et il a fait l'œuvre de Dieu sans Dieu. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, cela nous concerne, car le monde scrute ceux qui se disent chrétiens. Et si c'est pour y trouver l'humanisme généralisé de la planète, croyez-vous qu'ils seront émus et touchés? Ils connaissent ça par cœur. Aimons nos frères comme lui nous a aimés. Or, l'amour de Dieu consiste à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Première lettre de Jean 3, verset 16. Les 3-16 sont importants dans la Bible. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Je vous invite à prier maintenant. Seigneur notre Dieu, merci et nous confessons avec joie, Seigneur, que tu nous as tout donné, Seigneur. Tout donné par cette vie nouvelle. Tout ce qui contribue à la vie, à la communion avec toi, à la piété, à la crainte de ton nom, à la confiance dans ton nom, à l'assurance de ce salut et de cette vie éternelle. Père, ce matin, je veux te prier pour que ceux qui ne connaissent pas là, parmi nous, cette réalité, Seigneur, puissent être interpellés, touchés. Seigneur, tu peux, je te prie, Père. Descends, envoie un ange intercesseur, l'un entre les mille, Seigneur. Viens toucher cette âme qui est peut-être près de la fosse, qui est près de la mort ce matin, qui n'a plus la force de crier à toi. Père, agis. Agis, Seigneur, tu as dit, tu accompagnerais ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Je te demande ces nouvelles naissances, Seigneur, au milieu de nous. Père, je te prie pour mes frères et sœurs en Christ. Nous avons reçu une foi du même prix, tous. Foi en Jésus-Christ, ça nous a été rappelé par nombreux textes ce matin, Seigneur. Nous étions perdus, nous étions pourris jusqu'à la moelle, Seigneur. Mais tu es venu implanter ta vie, Seigneur, qui vient renouveler, régénérer, Seigneur. Alors, je te prie, Seigneur, de nous encourager, nous aider dans ces exercices que tu nous demandes pour tenir jusqu'au bout. Sois béni, sois loué, sois glorifié, Père, par le beau, précieux, merveilleux nom et puissant nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.